Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchon.
Il est 19h20, vous écoutez RTL et c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Bonsoir Anne Rosenchère.
Bonsoir.
Avec l'écrivain Denis Tillinac. Bonsoir Denis.
Bonsoir Marco.
Avec la conseillère en communication Françoise Degoua.
Bonsoir
Françoise.
Monsieur Marco.
Et bonsoir madame. Et Jean-Claude Dacier de Valeur Actuelle. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Ça me chatouille. Ou bien plutôt, ça me gratouille.
Attention, ne confondez. Pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi.
La France quasiment championne d'Europe de l'absentéisme au travail, juste derrière l'Italie. Le nombre moyen d'absence était de près de 17 l'année dernière. Alors, deux études publiées aujourd'hui. Hein. Les arrêts de travail ont progressé de 7,5% entre 2010 et 2016. Public et privé confondus, ils coûtent 60 milliards d'euros par an à notre économie. Et dans la fonction publique territoriale, près de 44% des agents ont été absents au moins une fois, 50% de plus que dans le privé. Alors les Français sont-ils des fainéants? Moi c'est simple comme question. Lui là tous les soirs, pas très fainéant. Enfin s'il écrit un peu en
présent.
Dernière minute. Bonsoir
Benoît.
Ouais.
Oui mais je suis présent, c'est ça dans cette étude l'essentiel.
Oui.
Bah, y a ceux comme JB qui ne voient qu'un aspect. Les fonctionnaires bossent pas, il est grand temps d'atténuer ces disparités entre privé et public. Et puis d'autres comme Fick qui disent, faudrait peut-être se poser la question du pourquoi. Pour une fois, on pourrait remettre en cause l'encadrement, les DRH, non? Bien sûr, les directions sont les premières responsables, attaque Dalila. Pas de motivation salariale dans le public, aucun intérêt au travail, c'est normal, soupire Robert. Jean-François souligne aussi les coupes un peu partout dans les effectifs. Ceux qui restent tiennent un moment, puis ils craquent. Je sais de quoi je parle, je suis aide-soignant, dit-il. À force de dire aux gens qui coûtent trop cher et qui sont trop exigeants, grince Fidi, oui, enfin, on peut légitimement se demander pourquoi un agent territorial est beaucoup plus absent qu'un ouvrier. Il y a un problème, soit de management, soit de laxisme, soit de mauvaise habitude, mais il faut le traiter, ça gaze donc. De toute façon, les fonctionnaires, ils sont absents même quand ils sont présents, ricane Noun. Jean-Luc rétorque que c'est ce genre de remarques stupides qui font monter les burn-out de plus en plus fréquents et leur rendre remarquer que si la médecine du travail n'était pas quasi inexistante, on pourrait peut-être réaliser une politique de prévention. On peut pas nier non plus que certains profitent du système, faut arrêter de vouloir trouver une excuse à tout, Raj Farah. Diogène remarque enfin que beaucoup assimilent arrêt de maladie à fraude. Jamais il vous vient à l'idée que les gens puissent vraiment souffrir. Présenté ainsi, on dirait des maîtres qui regrettent le peu de rendement de leurs esclaves.
Jean-Claude Dacier, fainéant, c'est français?
Qui a dit fainéant? Le président de la République n'avait pas distillé. Non, mais je pense pas qu'il pense ça et que les Français soient fainéants, je ne le pense pas non plus, je crois qu'ils ne le sont pas. Ce qui est vrai, hélas, incontestable, c'est que depuis une bonne quarantaine d'années, petit à petit, la valeur travail se dégrade dans ce pays. Alors, je ne veux pas faire de polémique avec ma camarade Françoise Degoua.
Camarade d'acier.
C'est dommage, vous êtes là pour ça.
Le ministère du temps libre dans les années 80... Les 35 heures, tout ça fait que petit à petit, les Français, et pas seulement les Français, mais quand même beaucoup les Français, on est, sinon les champions d'Europe, on est quand même pas loin de la tête, se sont installés dans une espèce de posture. Je parle pas des 11 jours fériés, 11 jours, record du monde. Je parle pas des 2 mois et demi de vacances et je compte serrer. Donc, je veux dire, tout ça fait que, mon Wauquiez a appelé ça un pays qui s'installait dans l'assistanat. C'est heureusement vrai de peut-être de ma génération ou des générations précédentes. J'espère que les jeunes, notamment ceux qui sont sur le business internet, qui travaillent dans les sociétés start-up, je suis même convaincu qu'eux ne comptent pas leurs heures. Mais en France, si vous essayez de travailler le vendredi après-midi, bon courage. C'est une réalité, on ne peut pas la nier.
En Argentine, 19 jours fériés, hein, Jean-Claude.
Bon, d'accord.
L'Inde et la Colombie aussi.
Ça, c'est terrible. On est moins bons que les Argentins.
Ah, mais vous disiez.
J'ai tenté le coup.
L'Argentine est un grand pays qui se dépatouille un peu dans des embrouilles en ce moment.
Enfin, c'est bon, je ne suis pas sûr que. Je ne parle pas des ponts. Regardez les ponts de 2018. Ce pays ne foutra rien en 2018.
Regardez, c'est le gars qui regarde les ponts en sachant quand est-ce qu'il peut partir.
On peut considérer que tout va bien, on n'en parle plus. Non. Si on estime qu'il est temps de s'atteler et de remettre ce pays au boulot, ce qui est ma conviction, soyons conscients qu'il y a effectivement des choses à faire.
Bon, on ne va pas repartir sur les débats, moi, les amis, sur est-ce que les Français sont fainéants? La réponse est non. On ne va pas reprendre les études de l'OCDE disant que les Français travaillent, que autant que les Allemands, etc. Ce n'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que dit cette étude. Ces deux études, d'ailleurs. J'ai été très frappé de lire l'étude de Malakoff-Médéric. Elle est très intéressante parce qu'elle dit aussi qu'il y a des salariés du privé qui se font
prescrire des arrêts de travail, mais qui ne les prennent pas parce qu'ils ne veulent pas se laisser aller. Mais cette étude, elle peut dire aussi, hormis le fait qu'il y a certainement des tirs au flanc comme partout dans le monde, mais qui est une proportion infime, mais elle dit aussi qu'il y a un phénomène qui s'appelle la souffrance au travail. On peut le nier, on peut décider que ça n'existe pas. Oui, la souffrance au travail.
C'est dans tous les dans toutes les activités.
Je pense que les salariés. J'étais très intéressé par ce que disait notre ami sur Twitter, parce que je pense qu'il y a souvent du bon sens sur Twitter. Je pense que les salariés vivent, donc que ce soit dans les PME, les TPE, des pressions beaucoup plus importantes, parce que souvent il y a des postes qui sont supprimés et qui ne sont pas remplacés. Je vous rappelle, pour l'exemple japonais, que quand vous partez en vacances 10 jours au Japon, vous n'êtes jamais remplacé. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous rentrez, vous offrez des cadeaux à tous vos collègues. C'est pas ça notre culture en France. Vous avez des gens dont les postes sont supprimés, vous avez des gens qui souffrent, vous avez des gens qui souffrent psychiquement, vous avez un nombre incroyable d'augmentation de burn-out, de gens qui se sentent pas bien, vous avez des DRH qui n'existent pas. Expliquez-moi, Marco, dans votre longue carrière, je veux pas parler d'RTL, je n'en sais rien, est-ce que vous avez déjà croisé un DRH qui fait autre chose que vous faire le solde de vos congés, un DRH qui est capable de vous parler, qui est capable
très
de vous
accompagner. Très objectivement,
incroyable discours. Mon ami Françoise de Gouin ne changera jamais.
Incroyable discours. Derrière ces arrêts maladie, est-ce qu'on peut voir autre chose?
Il faut rajouter des jours de congé.
Est-ce qu'on peut voir autre chose que ce que vous y voyez inlassablement, Jean-Claude Dacier? Est-ce qu'on peut y voir une augmentation de la souffrance au travail et du fait qu'il faudrait prendre le burn-out en compte?
Ça expliquerait, Françoise, tout cet absentéisme et ce regain d'absentéisme.
Moi, je pense qu'il y a un regain d'accéder, parce que ça concernerait que les fonctionnaires, qui est quand même le fantasme préféré de Jean-Claude Dacier. Je dis d'accord, mais regardez dans le privé, regardez les augmentations d'arrêt de travail dans le privé. Ça veut dire qu'il y a un mal-être au travail.
Les patrons tortionnaires, quoi.
Non, pas les patrons tortionnaires.
Le déni,
pas forcément les patrons
tortionnaires.
La surcharge de travail, le problème de management, le problème d'encadrement. On n'encadre plus maintenant, Marco, humainement. On n'encadre plus. La vie des ateliers, c'est fini. La vie, vous n'avez même plus un contremaître à qui parler. Vous parlez à un type qui est dans un bureau de l'autre côté à New York, il y a un sujet, voilà.
Oui, alors...
Je
ne suis pas tout à fait d'accord, en fait...
Avec qui? Parce que vous avez deux avis assez tranchés.
Ni avec l'un, ni avec l'autre.
Vous allez être au milieu, mais vous avez de la place en même temps. Vous allez avoir de la place.
Non.
C'est le grand bloc centriste qui s'installe. Avec les idées qui vont avec.
Évidemment. Allons-y.
Non, mais en effet, il n'est pas question d'expliquer que les Français sont des fainéants.
Personne n'a dit ça.
Ni de nier la violence du monde du travail, la précarité du monde du travail parfois. Moi, je ne pense pas du tout que en vérité, tout va très bien dans le meilleur des mondes et que les salariés tirent au flanc en permanence. En revanche, je pense que derrière ce phénomène d'absentéisme, oui, il y a quelque chose qui me dérange, qui est le côté, les autres le font, donc je le fais aussi. C'est la société de défiance. Il y avait des économistes qui avaient analysé ça.
Oui, l'excellente économiste Yann Algan, notamment.
Oui, exactement, qui avait dit à quel point ça coûtait des points de PIB, c'est-à-dire que les gens se font justice eux-mêmes. Il y a un effritement de la notion du civisme et de la solidarité, et donc ils se disent, moi j'avais même une amie qui travaillait dans la collectivité territoriale et qui me disait, non, mais il faut encore que je prenne mes jours de maladie de mon enfant parce que je ne les ai pas pris. Donc c'est le côté j'y ai droit qui, je
là-dessus,
pense...
Là-dessus c'est indéniable, hein, Françoise, franchement.
Mais il y a des côtés j'y ai droit, mais non, il y a quelques... J'ai dit, il y a des tirs au flanc, il y a des gens j'y ai droit, mais on peut parler aussi de la revalorisation des salaires, on peut parler aussi de ce mal-être général, la non-reconnaissance de l'importance de son travail. Ça, c'est une réalité.
Probablement, mais je pense
sur
qu'on
les salaires,
pas...
je suis d'accord, mais si le syndicat arrête de penser qu'il faut d'abord vendre des cartes et qu'il pense vraiment à l'intérêt du boulot, ça peut changer.
On y revient dans un instant avec Denis Tillinac. À tout de suite sur RTL.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier.
Et on continue à refaire le monde sur RTL à 19h33 ce soir avec Françoise Degois, Anne-Rose Encher, Jean-Claude Dacier, vous, Denis Tillinac. L'absentéisme, fléau français.
Ben vous avez dit qu'on était champion d'Europe avec les Italiens. Bon, ben on est des Latins, avec une culture catholique. On n'a pas le même rapport à l'argent, au travail que les protestants anglo-saxons ou scandinaves. Bon, ça, c'est pas tellement étonnant. Derrière l'absentéisme, il y a un petit peu de travail au noir. Hein, on prend quelques jours pour finir des choses qu'on a à faire par ailleurs. Ça aussi, ça fait partie de la culture. Bon, c'est comme ça. Alors, je crois que la valeur travail, c'est-à-dire l'idée que l'essentiel de la sociabilité se passe sur un lieu de travail, elle est en déclin. Elle est en
c'est
déclin
clair, on est d'accord.
Partout dans le monde, et je crois que c'est irrémédiable parce que c'est lié,
en Chine.
C'est lié à l'évolution.
Denis, pas en Chine.
Non, pas en Chine.
Pas en Amérique latine et pas aux États-Unis. Et pas aux États-Unis.
Je ne sais pas, mais enfin, je crois que c'est lié quand même au fait que le travail est de plus en plus parcellarisé, que la concurrence, quand même, sur, je parle dans le privé, est de plus en plus rude et que de plus en plus de gens privilégient l'associatif, le temps libre. Bon, je gagnerai moins, je m'en fous, puis après tout, que, j'ai envie de temps, j'ai envie d'une vie moins harcelante, moins hystérique. Ouais. Truc. Je pense que.
Mais en France, c'est travailler moins pour gagner plus. C'est là où la philosophie coince.
Non, je crois qu'on n'est pas là, c'est plutôt travailler moins, quitte à gagner moins, pour plus de bonheur.
Et je crois que. Je crains que ça soit difficile à tenir. Non, parce que
je crois pas que le bonheur soit indexé mécaniquement sur le
dans le monde
sur le niveau de vie
Denis,
sur les salaires.
Dans le monde des années 80, je suis d'accord avec toi, ça serait formidable. Le problème, c'est qu'on a un peu changé de monde qui a
mais
la planète.
Comme, mais comme vous l'avez vu, on a un nouveau président, Jean-Claude Dacier, oui. Et
ça m'a pas échappé. Oui,
oui, ça ne m'a pas échappé. Et vous avez vu que la valeur travail, elle est quand même au centre de tout chez lui.
Il est allé jusqu'à dire qu'il souhaitait que de plus en plus de Français souhaitent devenir milliardaires. Oui, bravo pour l'idéal.
Ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit.
C'est ce qu'il a dit.
Ce serait bien que quelques jeunes disent, après tout, au lieu d'être fonctionnaire,
c'est encore autre chose. Mais donc, vous devez être rassuré avec Emmanuel Macron à l'Élysée.
Je pense qu'il va essayer de remettre ce pays dans le bon sens, oui. Qu'il va le remettre la tête sur les épaules, oui.
Pourquoi ? Moi, je ne pense pas que les gens soient d'accord pour dire que la valeur travail a peut-être un petit peu faibli depuis quelques temps. Néanmoins, on voit que, par exemple, les gens qui n'ont pas de travail, ils veulent du travail. La meilleure preuve, sinon, ils auraient voté en masse pour Benoît Hamon qui disait il faut un revenu universel. Remonte, c'est justement, on ne veut pas vivre de la simple redistribution comme si la société abdiquait l'idée même d'avoir des perspectives pour nous, d'avoir un travail pour nous, et on veut du travail. L'industrie avait cette valeur aménageuse du territoire.
Pas, c'est ça le problème. Cher ami, c'est qu'elle ne trouve pas.
D'industrie.
Pour trouver un électricien, un tourneur, vous mettez 6 mois, demandez au chef d'entreprise.
Mais c'est la formation.
Il y a 350 000 postes non pourvus.
Mais c'est pas par
flémardise. Se sont installés dans un certain confort quand même. On peut pas le nier.
Non, mais attendez, Jean-Claude, vous avez vu les chiffres récemment sur ceux qui essayent de frauder Pôle Emploi. Finalement, ils sont marginaux, mais c'est même pas marginaux. Il faut une loupe pour les voir.
Hein. Mais c'est pas évidemment un problème de fraude.
Pour revenir sur le travail, je suis absolument d'accord avec ce que dit Denis Tillinac, mais à 100%, notamment sur la grande idée du revenu minimum universel, qui est une idée qui a été assez mal portée, parce qu'elle a été portée maladroitement, qui est en train d'émerger dans la campagne italienne. Contrairement, on voit que Berlusconi est arrivé avec Beppe Grillo, mais c'est un débat qui est en train d'être ouvert, qui arrive en Europe. L'idée, est-ce que il faut absolument travailler comme on le considérait depuis 2 siècles pour être une personne heureuse et créer des valeurs.
D'autant qu'il n'y aura pas de boulot pour tout le monde.
Voilà, ça va plus loin. C'est qu'est-ce qui crée des valeurs dans une société ? Qu'est-ce qui crée des valeurs dans une société ?
Dans les années 60, c'était la croissance zéro et on entendait les mêmes discours. Il faut vivre autrement. Demandez aux Chinois, aux Africains demain. Ben oui, mais ils sont sur la planète avec nous. C'est ça que vous ne voulez pas voir. Vous raisonnez comme si le monde est fermé comme rien.
Doucement, les gens dans les voitures vont avoir des accidents.
Hélas, le monde a changé. J'ai dit bien hélas, c'était peut-être mieux avant, mais ça a changé.
Les Chinois sont en train d'en crever. La jeunesse japonaise, les Chinois sont en train d'en crever, même physiquement, avec la surconsommation et la surindustrialisation. Les Japonais, cette société qui est la plus exemplaire sur le côté de la valeur travail, cette société, elle est aussi en train de se révolter.
C'est curieux, ils ne choisissent pas notre modèle. On se demande pourquoi, parce que si on est aussi exemplaire que ça...
Allez, je vous rappelle alors, si vous voulez bien, ça fait à peu près 2 minutes que
chômeurs,
que je bouge mes mains pour...
Je rappelle qu'on a un peu plus de 2 000 milliards de dettes et 6 millions de chômeurs. Mais tout va bien.
qui vous a dit que tout
allait bien. Heureusement, je pense en effet que le président de la République, lui, a une claire conscience des problèmes de ce pays.
Jean-Claude Dacier, passé de la droite à Emmanuel Macron.
Est-ce qu'il le connaît?
Emmanuel Macron est où, à votre avis?
À gauche, il était ministre de François Hollande.
Non,
allez, dans un instant.
Vous m'assurez, Emmanuel Macron, vous le gardez à droite.
Je
merci.
Comprends pourquoi François Zogo a quelques réticences.
Oh. Allez, dans un instant, le coup de sang de Marine Le Pen contre les banques.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec Denis Télinac, Jean-Claude Dacier, Rosenchère, Françoise Degois, Marine Le Pen, vous l'avez entendu, qui dénonce une fatwa bancaire, qui a annoncé qu'elle portait plainte contre la Société Générale et la banque du FN, qui est la banque du FN, et HSBC, qui est sa banque personnelle, qui toutes les deux donc, lui ont demandé de fermer ses comptes. Alors Marine Le Pen est-elle victime de discrimination ou cherche-t-elle à exister pour faire somme sur les réseaux sociaux, Benoît?
Jérôme résume ainsi, c'est le signe évident que Marine Le Pen a perdu tout sens politique après avoir souvent démontré jadis qu'elle en possédait un. C'est Jérémy Hatt sur la fatwa bancaire dont elle s'estime victime, atteignent les sommets du ridicule et font marrer tout le monde. Non, ça marche dans son électorat et c'est bien ça qui compte, rétorque Doc. Même si Tracfin découvrait des origines douteuses au fond et ont transité sur leur compte, les militants diraient encore que c'est une cabale, soupire Fanche. Oui, ils sont à nouveau en mode Calimero, Rick and Boy. Alors, dit Jean-Marie, un autre, qu'il y a forcément des raisons sérieuses pour que deux banques demandent la clôture de compte. Et puis les entreprises privées ont le droit de choisir leurs clients, point, tranche Bertin, qu'elle aille s'installer en Russie pour de bon. On s'étonne aussi beaucoup de cette expression fatwa bancaire, mais que vient faire l'islam ici, c'est tout vrico. Fatwa, elle peut pas parler français, la Marine, s'énerve Yves. Soit elle cherche à dire que des musulmans radicaux sont à la tête de ces deux banques, soit elle cherche à dire que la langue française n'est pas assez riche pour définir l'injustice qu'elle subit et qu'il faut avoir recours à l'arabe. Mais ne tirons aucune conclusion pour l'instant, s'amuse Neil. Kenny trouve quand même ça... que ça ressemble à de la persécution. Je ne vote pas Le Pen, mais là, je la plains. Pourquoi un parti qui rassemble tant d'électeurs n'aurait-il pas le droit d'exister? Pourquoi l'étrangler? Où est la démocratie? Calou aussi écrit que l'on soit pro ou anti-FN n'est pas la question. Que les banquiers fassent le tri de leurs clients sur des critères politiques est un déni de démocratie. Des militants ont même lancé le hashtag « Je quitte la Société Générale ». Ouais, ils sont quand même vachement plus émus par une clôture de compte que quand il s'agit de clôturer des gens, conclut Bruni.
Anne Rosenchère, pour vous, c'est la discrimination politique ou alors c'est fondé
Il y a le problème, c'est que comme il y a le secret bancaire, on ne peut pas savoir la vraie justification de cette fermeture des comptes. De deux choses l'une, soit il y a vraiment soit blanchiment, soit faiblesse, etc.
Ou origine douteuse du patrimoine, ce qui est un des sujets.
Auquel cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Si, en revanche, c'est une décision politique, pour le coup, je crois qu'il y a quand même un consensus démocratique. Je me souviens même de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, disant qu'il faut... Soit un parti est interdit parce qu'on considère qu'il est dangereux, etc. Soit il est autorisé, et en France, le Front National est autorisé, mais en plus, il représente aujourd'hui un nombre peut-être inquiétant, mais en tout cas, impressionnant d'électeurs. Donc, à partir de ce moment-là, le fait de ne pas trouver de financement est problématique démocratiquement. J'ajouterais juste que c'est contre-productif à deux points. La première chose, c'est que ça alimente, si vous voulez, une espèce d'indulgence vis-à-vis des affaires du Front National, parce qu'on dit en gros, vu qu'ils ont du mal à se financer, parce qu'ils se font ostraciser, c'est normal qu'ils aillent chercher à droite, à gauche. Donc, globalement, ils pâtissent quand même moins des affaires que les autres partis. Et en plus, encore plus contre-productif à mon sens, ça alimente l'idée que finalement, les seuls à combattre les banques et l'argent, c'est le Front National. Donc ça leur fait une pub. C'est comme quand le MEDEF, si vous voulez, je me souviens d'un bouquin de Françoise Parizeau qui était pas absurde d'ailleurs, et qui était
Laurence
plutôt... de Laurence Parizeau qui était... Mais quelque part, si vous voulez...
Sur quand, le FN, si vous avez Laurence le... Parizeau contre le FN.
Voilà, si
Marine
vous avez le MEDEF qui représente exactement ce contre quoi les gens votent quand ils votent FN, qui dit... c'est la même chose avec les banques.
Jean-Claude ?
Moi, je pense que la Société Générale va devoir s'expliquer. Je rappelle quand même que Marine Le Pen et le Front National ont, on peut le regretter, mais c'est un résultat, disputé le deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, ça, ils sont à la Société Générale, semble-t-il, je l'ai lu, je ne sais pas si c'est exact, depuis 30 ans. Donc, où il s'est passé quelque chose de grave ? Et il faut le dire, parce que sinon...
Mais comme vous l'avez compris, la Société Générale explique qu'elle ne peut pas le dire, elle est utilisée au secret bancaire. Et il y aurait une enquête, par exemple, sur le Front National, ce n'est pas à elle de le révéler à son client potentiel qui est à la cible de l'enquête.
Certes, mais là, elle fait de la politique avec une grande maladresse, la Société Générale. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire.
Peut-être qu'elle fait pas de la politique, qu'elle fait de la banque.
J'y ajouterais que si vraiment la Société Générale avait voulu refaire de Marine Le Pen une victime, il s'y serait pas pris autrement. La banque, la Société Générale, dans cette affaire, et je suis pas Front National, chacun le sait, sa posture, sa position...
Mais si vous raisonnez à l'inverse, la Société Générale doit savoir tout ça, et peut-être que factuellement, doit écarter Marine Le Pen parce que tous les critères sont
possible,
en rouge.
Alors
et donc, elle fait quoi ? Elle la garde en se disant je vais la victimiser.
Écoutez, avec le gars qui leur a piqué 5000 milliards ou je ne sais plus combien, ils ont pas été. Comment s'appelait-il ?
Kerviel.
Ils n'ont pas été gênés.
La justice a dit qu'elle n'a pas piqué 5 milliards.
Ils n'ont pas été gênés pour faire savoir comment les choses s'étaient passées. Il y a 10 000 façons dans le monde d'aujourd'hui de faire savoir quelle est la réalité des postures bancaires du Front National. Je dis que dans l'État, en l'État, la posture de la Banque Société Générale est incompréhensible et d'une grande maladresse.
Mais vous avez entendu certainement tout à l'heure Florian Philippot qui racontait quand même que quand il était donc numéro 2 du FN, les comptes étaient tellement mauvais qu'il n'arrivait même pas à se payer lui-même, contrairement à Marine Le Pen qui s'était augmenté. Mais bon, ça monte bien.
Philippot, toujours élégant, c'est normal.
Bon, en même temps,
sa parole ne vaut plus un clou, il est parti, maintenant il va balancer.
Il dit qu'il était bénévole parce qu'il n'y avait pas de moyen de le payer.
C'était bien.
Non, mais c'est pas ça. Ça prouve bien qu'il y a des dettes, quoi.
Quelle est la crédibilité de sa parole ?
En politique, ce qui est vrai, c'est ce qui est perçu comme tel.
Absolument.
Tout ce qui peut contribuer à faire percevoir le Front National comme victime d'une cabale des puissances de l'argent et du complexe politico-médiatique ne fait que faire monter le Front National. Alors, deuxièmement, je rappelle qu'il y a quand même pas mal de grands partis qui étaient en rouge, en gros rouge. Gros rouge qui tâche. Bon, je ne sache pas que les banques aient décidé du jour au lendemain, comme ça, comme par hasard.
C'est pas tenable, cette position.
Ce qui est quand même marrant, c'est qu'elle a été virée, donc apparemment, peu dans l'été, et c'est que maintenant qu'on en parle. Il n'y a pas un peu de com' là-dedans ? Non, François,
Bonnet,
spécialiste de la com', non ?
Je ne sais pas du tout
s'il
y a pas de com'.
C'est ce que je disais. La victimisation,
bien sûr que ça
sert le Front National,
évidemment. De la part de la Société Générale.
Donc, il fallait pas le faire.
Je suis 100% d'accord. Je pense qu'ils sont en train de réveiller Marine Le Pen, parce que quand même, Marine Le Pen est KO.
Absolument.
En tout cas, momentanément, depuis ce fameux débat du second tour, Marine Le Pen a pris un nion dont elle ne se relève pas. On lui sert sur un plateau la victimisation. Par ailleurs, je m'étonne que la Société Générale, qui pendant 30 ans a accueilli les comptes, d'un seul coup se réveille en disant... Parce que là, un parti, une banque, comment ça fonctionne ? Une banque qui accueille les comptes d'un parti, elle gagne beaucoup d'argent. Elle gagne de l'argent. Chaque fois que quelqu'un vote Front National, c'est 10 centimes d'euros. Ça veut dire que pendant 30 ans...
Ce qui est un scandale.
Oui, on considère que l'argent du Front National est acceptable, et l'argent de Marine Le Pen, et d'un seul coup, on décide. La Société Générale doit s'expliquer véritablement, parce qu'elle est en train de réveiller, je le dis, Marine Le Pen, qui était vraiment dans les choux et de façon durable.
On y revient dans un instant. Pour terminer, on refait le monde. Après, il sera 20h.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec Françoise Degoy, Jean-Claude Dassy, Anne-Rose Enchère, Denis Tillinac. Donc, victimisation ou pas, peut-être que comme vous le disiez, donc, la Société Générale a servi à Marine Le Pen des arguments pour se remettre en selle. Mais vous croyez à l'avenir de Marine Le Pen, vous, Françoise Degoy ?
Écoutez, je pense qu'elle en a, je ne sais pas à quel niveau il se situe, entre 5 et 10% ou entre 20, mais elle, c'est quelqu'un qui...
Si c'est entre 5 et 10%, vous ne croyez pas en l'avenir de Marine Le Pen.
Oui, je pense qu'elle renoncera jamais, mais elle ne renoncera jamais, mais je pense que tous les voyants sont au rouge pour elle. Je ne vois pas comment on se relève de cet échec qui, en fait, c'est un peu injuste pour le Front National, il est un succès par rapport à 2002. Mais elle, c'est un échec personnel très profond et très ancré, je crois, dans l'électorat frontiste.
Oui, bon, pour le moment, elle est dans un creux terrible depuis ce débat, puis cette mauvaise campagne précédant le débat. Pas oublier que d'un parti d'extrême droite marginal qui était celui de son père, en dépit du talent de celui-ci, elle a fait un parti qui était en tête de toutes les élections intermédiaires et qui arrive au deuxième tour de la présidentielle. C'est une guerrière. Elle est pas si bête, elle a des qualités, je veux dire.
Mais elle a perdu un combat ou la guerre ?
Elle a perdu un combat, je suis pas sûr qu'elle a perdu la guerre. Tant qu'on n'est pas mort...
En politique, est, hein, on n'est jamais sûr que...
Elle n'est pas morte.
La mort sous définitive.
Elle est blessée, sérieusement.
Ouais.
C'est vrai, mais une fois ces précautions de bon sens faites, je pense quand même qu'elle s'est méga crachée. Hein. Et encore aujourd'hui, auprès de l'électorat du Front National...
Des militants.
Mais en revanche, il y a quelque chose à laquelle je crois, et c'est ce que dit d'ailleurs Christophe Guilluy dans une interview dans l'Express, c'est croire que l'électorat populiste s'est envolé avec le crash de Marine Le Pen, c'est de la pensée magique. Là, aujourd'hui, on fait comme si, quasiment.
Donc,
quelqu'un. Alors, est-ce que ce sera en effet Wauquiez qui essaye clairement de faire cette stratégie de siphonnage ou est-ce que ce sera l'émergence d'un candidat populiste, ni droite ni gauche, un peu le négatif d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire mais pour la France en bas, on ne sait pas finalement. Oui. Jusqu'à maintenant, on avait l'impression qu'il fallait connaître les gens avant. On a vu que Macron, en 5 ans, il s'est révélé. Est-ce qu'il n'y aura pas un candidat, même pas en 3 ans,
10 ans, 10 mois.
Il était quand même dans la machine d'État.
Est-ce qu'il n'y aura pas un candidat populiste, ni droite ni gauche, qui n'aura pas cette étiquette de Front National, d'extrême droite, etc., qui émergera? Ça, c'est autre chose.
L'amitié, c'est le plus.
Ils n'ont plus, franchement.
Ouais. Ouais. Ça, je suis d'accord. Les leviers sans
sauce existent. C'est la mission historique de Wauquiez.
De Wauquiez, c'est pour ça que ceux qui disent oh là là, il est très à droite, c'est une analyse qui est. Il suit la ligne qui est la seule possible pour lui, récupérer à terme les 20 ou 25% de voix qui ont rejoint le Front National depuis quelques années, qui étaient auparavant au RPR.
Allez, merci à tous les quatre, Françoise, Anne, Jean-Claude et Denis Tillignac. Merci. Dans un instant, le flash de 20h avec Céline Landreau. Et ensuite, on retrouvera Jacques Pradel. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir, Marc-Olivier.
Au sommaire de votre émission ce soir, Jacques.
Nous jouerons le dossier d'une mort suspecte à l'école des mines de Paris. Ça s'est passé le 18 septembre 2013. Un garçon de 19 ans, étudiant en première année, Jocelyn Maffeis, tombe du 7e étage dans la cour de la résidence des étudiants de l'école. Il va décéder 6 jours plus tard, mais sans reprendre conscience. Alors, que s'est-il passé? Bizutage, stupide, accident malheureux, suicide. Les parents de Jocelyn veulent connaître la vérité. Il lance ce soir sur RTL, dans quelques minutes, un appel aux auditeurs.
Très bien, tout de suite Jacques Pradel, donc pour l'heure du crime sur RTL.